tout de suite notre rendez-vous avec Lire et faire lire. Et pour ça, j'accueille Marie-Ange Giuseppi, qui fait partie de Lire et faire lire, donc ce dispositif mis en place par l'UDAF. Bonjour Marie-Ange.
Bonjour.
Alors, je vais vous demander, évidemment, depuis combien de temps vous faites cette expérience et ce qui vous a mené à avoir envie de lire et faire lire ?
Alors, ça fait 6 ans que je fais partie de l'association donc Lire et faire lire. J'y suis venue par le plaisir de partager la lecture avec de jeunes enfants. Bon, c'est vrai que j'ai une expérience d'enseignante derrière moi, mais j'ai bien eu conscience rapidement que ce qu'on fait à Lire et faire lire dans le cadre de l'association, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire autour de la lecture à l'école. Et justement, ça donne beaucoup plus de liberté et de choix possibles et de plaisir tout simplement. Donc, voilà, ça fait 6 ans que je vis des expériences un peu différentes avec différents groupes d'enfants, de la maternelle à peu près jusqu'au collège, et que chaque fois, c'est des choses qui ont quelques difficultés parfois, et puis beaucoup de plaisir aussi. Ce que je tiens à dire aussi, si je m'adresse à d'éventuelles personnes intéressées pour participer à l'association, c'est que dans le cadre de Lire et faire lire, il y a quand même des journées de formation qui permettent de s'entraîner à la lecture à haute voix, à la gestion d'un petit groupe d'enfants, quel que soit l'âge. Donc j'ai choisi de vous lire des extraits d'œuvres de littérature jeunesse. Donc, je vais lire un extrait des Lettres à plume et à poil de Philippe Le Chermeyer, parce que j'espère que vous verrez que les œuvres de littérature jeunesse peuvent être interprétées à plusieurs niveaux et que tout le monde peut y trouver son compte, qu'on ait 6-7 ans ou 16-17 ou 77 ans. Voilà.
Alors, on vous écoute.
Alors, je vais vous lire les Lettres du corbeau au poulet. Messieurs les poulets, je ne sais pas comment vous vous débrouillez, mais j'ai l'impression qu'il faut s'occuper de tout par ici. Cela fait maintenant trop longtemps que ça dure. Vous faites quoi quand vous êtes de garde la nuit? Vous jouez aux cartes? Vous piquez un roupillon? C'est quand même pas possible que vous n'ayez pas remarqué qu'il y a une bande de délurés qui empêche les braves bêtes de dormir dans d'une bouche. Alors voilà, ils sont plusieurs et ça se passe le plus souvent dans la grande clairière, mais parfois aussi près de la grange. C'est chaque fois pareil. À peine la nuit tombée, ils commencent leur vacarme. Il y a d'abord la chouette, qui pousse des cris comme pas permis. Puis, comme s'il faisait un concours, il y a le hibou qui s'y met. Ouh, par-ci, ouh, par-là. Et en plus de vous réveiller, c'est un truc à vous filer la trouille que je dis. Et quand enfin ils vont faire leurs idioties ailleurs et que vous commencez à fermer l'œil, la tipa qui a les chauves-souris qui débarquent avec leurs dents de vampire et leurs capes de Superman. Et ça vole et ça virevolte. Encore un truc à vous gâcher la tranquillité et à effrayer les animaux honnêtes. Messieurs les poulets, c'est tout de même vous qui êtes chargés de notre sécurité. Alors, faudrait veiller à ce que ça cesse, ce nom d'idiot. Et puis, je vous préviens, si ça bouge pas rapidement, je vais reprendre ma plume et écrire à vos supérieurs pour me plaindre. Non mais, le corbeau. P.S. Tant que vous y êtes, quand vous mettez en prison tous ces voyous, amenez aussi les lucioles. Elles restent allumées toute la nuit. Un vrai gâchis. À croire que tout est gratuit, maudit Dieu. Alors, je vais vous en lire une autre. C'est toujours le corbeau au poulet. Messieurs les poulets, ça ne vous dérange pas que dans le ciel ce soit le bazar? L'autre jour, alors que j'allais vers le champ de Monsieur Séraphin, voilà-t-il pas qu'un groupe de moineaux me coupe la trajectoire sans même s'arrêter pour s'excuser? Un peu plus et j'y laissais des plumes. Et si c'était que ça? Mais c'est pas terminé. À peine j'entamais ma descente qu'un pigeon m'est arrivé en pleine face. Il m'a foncé dessus, à croire qu'il m'avait pas vu. Heureusement que j'ai donné un coup d'aile au dernier moment. Si encore c'était exceptionnel, mais c'est comme ça tous les jours. Je vous raconte même pas le nombre de fois où j'ai failli percuter un autre volatile. Plus personne ne respecte les règles et la priorité à droite. On a l'impression que ça n'a jamais existé, merde idiot. Franchement, il serait temps que vous fassiez quelque chose. C'est quand même votre boulot de régler la circulation, non ? Encore faudrait-il que vous puissiez voler. Mais c'est vrai que vous êtes sous-équipés. Demandez des ailes qui fonctionnent. Les vôtres, elles marchent même pas. Alors là, ça devient de plus en plus difficile pour lui. Messieurs les poulets, je voulais vous dire, depuis quelque temps, il y a de nouveaux corbeaux qui sont arrivés par ici. Alors voilà, quand on ne fait pas attention, on ne fait pas la différence. Ils sont presque pareils que nous, mais quand on y regarde de plus près, on voit bien qu'ils sont plus foncés. Et puis, ils ont un accent quand ils croassent. Ils disent pas « croix, croix » comme vous et moi. Et puis surtout, ils viennent nous retirer les grains de la bouche, non Didio. C'est-il quand même pas possible qu'on laisse des corbeaux étrangers nous voler notre manger ? Alors, virez-moi ça vite fait. C'est quand même votre travail, non ? Le corbeau. P.S. Ils sont installés dans un arbre un peu à l'écart près du champ du roger. Ils se cachent, mais vous pouvez pas les manquer. Voilà. Et donc, je vais peut-être pas vous lire la dernière lettre, mais le corbeau se retrouve malencontreusement enfermé en prison avec tous les animaux qu'il a dénoncés, parce que lui-même, il a commis un délit. Et il n'a pas le temps de finir sa dernière lettre.
Alors, Marie-Ange Giuseppi, donc, je rappelle que vous faites partie des bénévoles de Lire et Faire Lire. Vous avez été formée, vous aussi
Oui. On a au moins 3 ou 4 journées de formation par an. En particulier, quand on démarre, il y a vraiment une formation autour de la lecture à haute voix, parce qu'on peut penser que quand on ne l'a jamais vraiment pratiqué, ben oui, ça peut être difficile et qu'il faut se former. Mais je tiens à redire qu'on a le droit aussi de bafouiller un peu, puis de se tromper au début, et puis les choses viennent petit à petit. Et quand on a vraiment très envie de faire partager quelque chose, on y arrive, même avec des imperfections. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, ce sont les journées autour desquelles on peut échanger entre, je dis, lecteurs, par principe électrice, mais actuellement on est surtout des lectrices. L'association nationale prévoit des tutorats qu'on peut regarder ensemble et puis autour desquels on peut discuter sur plein de choses, hein, le choix des livres qu'on peut avoir, la gestion du groupe, etc. On a des rencontres aussi avec les bibliothécaires professionnels qui donc nous proposent les nouveautés, nous informent sur la littérature de jeunesse, et puis aussi avec des bibliothécaires amatrices et amateurs, ce qui permet aussi des échanges vraiment intéressants autour du partage de la littérature. Et puis enfin, cerise sur le gâteau, on a des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs. Et là, vraiment, c'est chaque fois une expérience nouvelle et intéressante parce qu'on partage vraiment l'aspect création et puis tout ce qui tourne autour du livre, les difficultés qu'il peut y avoir aussi, les collaborations entre les différents professionnels qui interviennent autour de la création du livre. Voilà, donc pour moi, je trouve que c'est à la fois, il y a l'activité régulière auprès des enfants, mais il y a aussi des échanges avec des adultes et une formation et un enrichissement personnel.
Et vous intervenez auprès des enfants de la crèche aussi ?
Alors non, moi je ne suis pas intervenue auprès des enfants aussi petits. Je suis intervenue dans le cadre de centres aérés avec des enfants de maternelle, donc de 3 à 5 ans, pendant une année. Donc c'était à 4h30 après l'école, non 3h30, c'était l'année où il y avait la journée qui était plus courte, mais c'était quand même après une journée d'école, donc c'est vrai qu'il faut s'adapter un peu à la fatigue et puis à l'envie des enfants, prendre en compte tout ça, et en général on partageait un album et puis je proposais une petite activité à la fin pour que les enfants s'approprient un peu plus personnellement la lecture qu'on avait faite en collectif.
Et vous dites que vous êtes vous-même très sensible à la poésie. Est-ce que les jeunes enfants sont aussi sensibles à la poésie par rapport à une histoire comme celle que vous venez de nous raconter ? Ils sont attentifs ?
Oui, enfin, moi, je trouve que la poésie, c'est vraiment un canal de communication et d'expression différent de la littérature en général. Dans mon expérience professionnelle, j'ai beaucoup lu et partagé de poésie en classe avec des élèves en situation de handicap, des élèves petits, des élèves au collège. Oui, je trouve que la poésie, c'est vraiment un langage un peu universel où les mots s'adressent plus à la sensibilité et sont plus porteurs d'émotions. Et donc, oui, je trouve qu'avec un texte poétique, on s'adresse à plusieurs classes d'âge et on provoque une émotion plus qu'un apport de savoir ou une histoire, quoi. Je peux dire un mot peut-être du prix poésie, lire et faire lire. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quand même une bonne dizaine d'années, la littérature jeunesse en général et en particulier la poésie pour la jeunesse, si on peut dire, a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de poètes contemporains qui écrivent des choses qui s'adressent vraiment aux enfants de maintenant, enfin, et qui parlent du monde dans lequel on est, qui sont donc vraiment en prise avec la réalité. Et donc, dans cette volonté un peu de développer la poésie et de la faire mieux connaître, l'association Lire et Faire Lire propose, à l'occasion du Printemps des Poètes qui a lieu toutes les années au mois de mars, de décerner un prix poésie. Donc, on est doté de 4 recueils de poésie qu'on présente aux enfants auprès de qui on intervient. Et puis, chacun doit voter pour celui qu'il a préféré. Chaque année, c'est vraiment très, très intéressant de nous-mêmes, de nous motiver pour présenter au mieux chacun des recueils, qui sont chacun très différents. Il y en a toujours au moins un en langue étrangère, traduit en français, bien sûr. Et puis, après, de voir les réactions des enfants et les choix qu'ils font, parce que ça va souvent vers l'objet livre en lui-même, c'est-à-dire qu'il sélectionne le recueil dans ce qu'il a d'illustrations, de formes, de poésie qu'il contient, plus que plutôt le texte, où voilà, ils ont une analyse plus globale de l'objet.
On n'en vient pas au rap pour les enfants, parce que c'est aussi une forme de poésie,
oui,
mais très rythmée,
oui.
qui pourrait peut-être être intéressante. Enfin, je ne sais pas si ça existe.
Il y a des groupes qui interviennent auprès des classes. Enfin, c'est souvent plutôt quand même au collège qu'on commence à mettre du flow sur les textes. Avec les plus jeunes, bon, on en reste à des formes plus classiques. Enfin, de ce que je connais. Mais bon, je suis aussi pas de la génération du rap non plus. Donc peut-être qu'il y a des choses que j'ignore, c'est sûr même.
Est-ce que vous voulez nous lire quelques poésies ?
Ah, très volontiers. Alors, je vais vous lire deux petits poèmes extraits du livre « Des beautés minuscules ». Ce sont des poèmes écrits par Karl Norak, qui est un poète belge. Le recueil est édité par les éditions Rue du Monde. Ce sont des éditions qui éditent de la littérature jeunesse, on pourrait dire « engagée », entre guillemets. Alors, je vous lis la préface du recueil. Avant de tout dire, toute la beauté du monde, je ne peux pas te la dire, mais rien ne m'empêche d'un peu l'approcher avec toi. Il y a de si grands murs qui cachent les jardins, des dépotoirs au bord des plages, des ghettos dans les îles, tant de blessures au paysage. Par bonheur, un peu de splendeur demeure alentour, et le dire, même tout bas, par amour, c'est croire encore qu'un jour, nous irons la trouver, toute la beauté du monde. Voilà un autre poème du livre. Le monde. Le monde est rond, c'est une pomme. Il ne faut pas trop la croquer, ni la salir, la réchauffer, lui faire manquer d'air, la laisser pourrir, dépérir ou l'arracher à la branche de l'univers. Il ne s'agit pas d'une brillante étoile ni du plus géant soleil. Voilà notre fruit, notre décor. Mais c'est bien là, sur cette pomme qui nous ressemble, que nous voulons ensemble vivre encore.
Il a l'air joliment illustré aussi ce livre.
Oui, c'est vrai que, comme je disais, les illustrations font partie de l'objet livre et c'est vraiment important. Mes mots. Mes mots sont des cailloux. Je les ramasse au fond de moi pour les mettre à la file, pour en faire une phrase. Ces cailloux-là ne se jettent pas avec une fronde. Ces cailloux-là, s'ils sont blessants, ne le voulaient pas. Je n'en fais pas des colliers de griffes ni des coffrets à bijoux. Ce sont simplement des cailloux tombés du bord de mes lèvres. Je les aligne devant toi pour te parler de mon chemin.
Ce sont des extraits des poèmes du livre « Les beautés minuscules ».
Voilà, aux éditions Rue du Monde, et ce sont des poèmes de Karl Norak.
Encore un... Je vois que vous avez un troisième livre. Alors, qu'est-ce donc ?
Oui, je peux... Si vous me laissez le micro, je peux vous en lire beaucoup. Alors là, j'ai choisi deux poèmes extraits d'un recueil très ancien, édité dans la collection Poèmes pour grandir aux éditions du Chêne. Et le recueil s'appelle « N'écoute pas celui qui répète ». Déjà, je trouve que le titre, il est très intéressant. Et ce sont des poèmes d'Alain Serre. Alain Serre, d'ailleurs, qui fait partie de la direction des éditions Rue du Monde. N'écoute pas. N'écoute pas celui qui répète, à part peut-être le ruisseau qui murmure la vie. Ne redis pas ce que le vent t'a soufflé, à part peut-être la liberté, puisqu'il court après. Ne crains pas les montagnes qui ne t'ont pas cru, à part peut-être ton cœur qui bat pour rattraper l'heure. Un autre qui s'appelle « Toi-même ». C'est fou ce qu'il y a de merveille dans le creux de ton oreille. C'est fou ce qu'il y a de chemin dans le creux de ton poing. C'est fou ce qu'il y a de poème dans le creux de toi-même.
Très joli, voilà, qui donne envie d'acheter le livre déjà pour les enfants.
Et puis
très
aussi joli. Peut-être de chercher les poèmes qu'on a au fond de nous-mêmes,
oui.
Parce que je pense qu'on en a tous et toutes.
Vous écrivez, vous aussi ?
Ah non, non. Je m'y risque pas. Je pense qu'il y a tellement de gens beaucoup plus compétents que moi que pour l'instant, je garde au creux.
Donc tous ces livres dont vous faites, que vous sélectionnez, ce sont pas forcément des livres qui viennent de paraître.
Ça dépend aussi avec quel groupe d'enfants on travaille. Quand j'intervenais au centre aéré, par exemple, bon, c'est vrai qu'il faut faire un peu en fonction de ce qu'on pense qui va intéresser les enfants, puisque au centre aéré, on est une activité parmi d'autres, et donc il faut un peu faire sa pub et se dire venez, regardez. D'ailleurs, j'avais fait une expérience aussi de lecture de poésie au centre aéré, et j'avais eu des retours qui m'avaient beaucoup touchée. Mais donc voilà, au centre aéré, on essaie de trouver des choses qui parlent un peu d'aventure ou de préoccupations des enfants, ou alors liées un peu à la saison, aux fêtes ou à ce qui peut se passer saisonnièrement dans une année. Depuis que je travaille un peu plus avec des classes, pour moi c'est plus confortable, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Forcément, j'utilise des livres liés aux thèmes ou aux projets qui sont traités dans la classe, quoi. Voilà, donc l'an dernier, la classe travaillait beaucoup sur la défense de l'environnement, etc. Donc j'ai trouvé des histoires et des poésies autour de ce thème-là. Pour cette année, je prépare des interventions avec des élèves plus grands, des CM1, CM2, qui travaille beaucoup sur la gestion des émotions.
Et ça, donc, c'est très important.
Je pense que c'est fondamental. Et donc, ben, comme ce sont des élèves un peu plus grands, j'ai choisi des petits romans que je vais lire en lecture suivie, parce que c'est vrai que ce qui est confortable aussi quand on travaille avec une classe, c'est que les groupes sont réguliers et qu'on sait qu'on aura les mêmes enfants d'une semaine à l'autre. Donc voilà, j'ai choisi deux petits romans différents, un pour les plus grands et un pour les plus jeunes. Voilà, donc on adapte un peu les lectures qu'on fait au groupe auquel on s'adresse.
Vous avez toujours la même motivation qu'au début ?
Oui, oui, c'est vrai que à travers lire et faire lire, je pense que la motivation demeure aussi parce que les expériences changent aussi. Et c'est vrai que en 6 ans, j'ai fait des choses assez différentes. On peut aussi, donc, il y a, c'est vrai, le partage avec les tout petits que personnellement j'ai pas expérimenté, mais qui est possible si des auditeurs ou auditrices sont attirés par les tout-petits enfants. Il faut savoir qu'en crèche, il y a vraiment de belles choses à faire avec des livres adaptés, des albums, etc. Après, bon, si on intervient dans le cadre d'une structure de loisirs, ben, c'est aussi une expérience très spécifique qui est avec beaucoup de degrés de liberté. Si on intervient dans le cadre d'une école, forcément, il y a un travail plus en relation avec l'enseignant. On a aussi participé au collège à un projet de liaison CM2-6e qui s'appelle Tatoulu, où là, on faisait des ateliers au CDI, enfin entre midi et deux, pour lire de manière un peu accélérée les romans et les livres sélectionnés dans le cadre de ce projet, que donc les élèves des classes de 6e qui participaient et les élèves des classes de CM2 devaient avoir lu. Il y en avait quand même presque une dizaine, donc ça fait beaucoup. Du coup, on était un peu des catalyseurs pour motiver et puis accélérer cette lecture et puis un peu aussi instaurer des débats autour du thème que comportait le livre. Et donc ça, c'est aussi une expérience assez spécifique. Et puis avec Lire et faire lire, on peut aussi participer à des événements culturels ponctuels, ben, comme ça a été le cas pour la Fiesta des Familles début octobre, où il y a eu un atelier de lecture en plein air. Je crois qu'il y a d'autres projets sur Digne cette année. Il y a la nuit de la lecture, enfin voilà, des choses comme ça. On a participé à pas mal de choses avec la médiathèque de Château-Arnoux dans les années passées, quand il y avait un événement qui s'appelait Méli-Mélo et où il y avait 2 jours consacrés à des ateliers culturels variés. Tout ça pour dire que lire et faire lire, c'est pas que de la lecture à haute voix, dans un cadre bien précis. Ça peut être vraiment très varié et chacun peut y trouver son compte.
Donc l'appel est toujours lancé pour des bénévoles qui souhaiteraient partager cette belle aventure avec l'UDAF et lire et faire lire. Et un numéro de téléphone, donc c'est celui de Sandrine Berger, 06 61 39 11 09, je répète, 06 61 39 11 09. Il y a également une adresse mail, sberger@udaf04.fr. Voilà, l'appel est lancé à nos auditeurs. Si vous voulez donc partager votre goût de la lecture avec des jeunes, que ce soit de l'âge de la crèche à plus âgé, c'est toujours possible. Est-ce que il vous est arrivé d'avoir de mauvaises expériences ?
Je parlerai pas de mauvaises expériences, mais dans chaque, ça, je crois que c'est général à la vie. Dans chaque expérience, chaque fois qu'on se lance dans une activité, ben il y a des difficultés à surmonter. Hein. Donc, ben c'est vrai que par exemple, quand on lit au centre aéré, ben on n'a pas toujours des conditions idéales. Il y a un peu du bruit autour. Des va-et-vient, donc il faut s'adapter. Quand on intervient dans le cadre de classe, personnellement, moi, j'avais décidé de prendre des demi-classes parce que sinon, pour l'enseignant, c'est trop compliqué de faire défiler des petits groupes comme ça. Ben, du coup, il faut gérer le groupe aussi. On peut avoir des enfants un peu agités ou peu attentifs ou, voilà, compliqués à gérer. Donc, Oui, il y a des difficultés, mais comme je le disais, il y a aussi des formations, il y a aussi des rencontres entre adultes qui font que on peut un peu se regaillardir, trouver des façons de faire qui permettent de surmonter ces difficultés. Et puis, bon, c'est peut-être mon état d'esprit, mais vraiment, j'ai toujours été surprise par le retour qu'on a des enfants sur les moments qu'on a passés ensemble. En général, à la fin de l'année scolaire, enfin à la fin de nos interventions, je fais toujours un peu un retour en arrière. Soit je ramène tous les livres qu'on a lus dans l'année, puis chacun parle de celui qu'il a préféré, etc. Soit je propose voilà, une activité qui permet de savoir un peu comment chacun a ressenti les choses. Et vraiment, j'ai eu souvent des bonnes surprises. Par exemple, quand j'étais au centre aéré, justement, où bon, c'est difficile de capter les enfants, il y a un petit garçon en particulier, bon, que je trouvais un peu agité, inattentif, etc. Et quand j'ai fait mon bilan à la fin de l'année, j'ai remarqué que finalement, c'était lui qui était venu le plus régulièrement, que chaque fois qu'il était là, même s'il ne tenait pas sur sa chaise, quand il y avait l'activité un peu d'appropriation, c'est lui qui faisait des choses les plus pertinentes. Et donc, je me suis dit que, voilà, il fallait passer par-dessus certaines choses et qu'au fond, ce qu'on apporte, c'est toujours malgré tout du positif, quoi.
Est-ce que vous ne nous liriez pas encore un poème pour terminer cette intervention ?
Ah oui, oui, vraiment. Lire et faire lire. Très volontiers. Alors, laissez-moi le temps de retrouver... Ah, voilà.
Voilà.
Donc, c'est toujours de Karl Norak dans le livre minuscule des beautés du monde. Dans ma poche, j'ai trouvé un papier. Sur le papier, il y avait un poème. Dans le poème, j'ai repéré un bateau. Sur le bateau, j'ai vogué avec mon regard. Dans ce regard, il y avait un souvenir. Ce souvenir était grand comme une poche. Pas par hasard, rien de géant. Mais juste assez pour y glisser un deuxième papier. Et sur ce papier, un poème qui va où il veut. Là, tu es en train de le lire. Si, après l'avoir terminé, tu fermes les yeux, il restera là, à voguer doucement, sous la poche de tes paupières.
Marie-Ange Guizepi, merci. Et puis donc, on rappelle que l'appel à bénévoles est toujours valable pour lire et faire lire. Donc, je vous ai donné tout à l'heure l'adresse mail et le téléphone 06 61 39 11 09. Bonne journée à tous. Merci de nous avoir écoutés. Vous retrouverez cette émission en ligne sur notre site. Au revoir.